Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Sport, l'émission sportive de Marmite FM 88.4. On est là comme chaque lundi en direct de 17h à 18h pour une heure de débat et une heure de sport local. Sont présents dans les studios aujourd'hui, souvent nommé, jamais élu, il est une nouvelle fois en lice pour remporter la statuette du meilleur pronostic sportif. C'est notre maître de cérémonie, Nouradine Hain. Salut Nouradine.
Salut Gilles, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs.
Il cumule les nominations et les rôles dans l'émission. Meilleur montage, meilleur son, meilleure musique originale, meilleure photo. Il fait tout simplement le boulot de régisseur. C'est Julien Mathieu. Salut Julien.
Salut Gilles, bonjour à tous.
Il joue une nouvelle fois les premiers rôles dans cette émission. Licencié au Plaisir Handball Club, c'est Elliot Sicala. Salut Elliot.
Bonsoir.
C'est sa première titularisation aujourd'hui. Il est né à Madrid, il a évolué au centre de formation du PSG et il supporte l'AS Saint-Etienne. C'est Quentin. Salut Quentin.
Salut Gilles, salut tout le monde.
Nous aurons un invité d'honneur aux alentours de 17h30. Il est maître d'armes à l'Escrime Club de Trappes, arbitre international. Il vient pour la première fois dans l'émission. C'est Ayoub Ferjani qui sera là d'ici une trentaine de minutes. Voilà messieurs, on enfile nos costumes pour cette émission de gala et on commence avec le sommaire. Dans quelques instants, dans Parlons Sport, vous saurez tout de la pratique de l'escrime à Trappes grâce à notre invité Ayoub Ferjani, maître d'armes à l'escrime club de Trappes. On reviendra de manière générale sur ce sport pourvoyeur de médailles olympiques tous les 4 ans. Longue séquence dédiée donc à l'escrime aux alentours de 17h30. En attendant, il nous faut tout d'abord dire un mot du rugby, où les acteurs du 15 de France ont réalisé une grande prestation en jouant le rôle de joueur de rugby qui gagne. Un match sans effets spéciaux, c'était samedi au Stade de France, victoire 27-10 contre l'Écosse. Le quota d'heure pour être intermittent du spectacle ayant été réalisé par tous les joueurs. La prochaine défaite est programmée le 10 mars contre l'Irlande. Nous parlerons par contre de football durant la première partie de l'émission. Nous sommes à la mi-temps des huitièmes de finale de Ligue des Champions et on dira quelques mots de la Ligue 1 où tous les acteurs qui occupent un second rôle jouent les premiers rôles cette saison. Vous nous direz si ce scénario vous plaît ou non. Je déclare ouvert plutôt les débats dans Parlons Sport tout de suite.
Hé, hey, Toshiba là-bas, oh, tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, notre connard?
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Tu sais combien je te paye là pour jouer avec tes pieds, connard?
Vous voyez comme il fait peur ce jingle? Bon, en parlant de peur, messieurs, nous sommes donc à la mi-chemin des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les matchs allés sont terminés et on rappelle les résultats pour les clubs français. Manchester United, ton club, Nouradine, puisqu'on le rappelle, tu as un côté Red, un côté Devil. Tu es un Red Devil, c'est ça. Un supporter historique de Manchester United, du temps d'Alex Ferguson, qui cette équipe-là qui s'est donc inclinée 2-0 à Old Trafford contre le PSG. Alors si on se souvient des débats dans notre émission il y a quelques semaines, on disait que voilà, ne pas perdre pour le PSG relevait de l'exploit. Et finalement, j'ai envie
ne
de commencer.
Ne pas perdre, non, tu exagères. Ah, bah, pas dire relever de l'exploit. Bah, est-ce que dommage que Julien n'ait pas pris les petits extraits là.
C'était un peu ça, Julien, quand même. Non,
non en gros,
on attendait surtout une victoire de Manchester.
Non, en gros, on disait que la période Manchester United avec José Mourinho, Manchester United faisait beaucoup moins peur que quand ils ont commencé à enchaîner quelques victoires, même si c'était contre des équipes moyennes, à part Tottenham, voilà, une équipe assez costaude quand même, qui a battu, qu'ils ont battu à zéro.
Flippait quand même.
Mais non, on flippait pas. Non, on se disait que c'était dit.
J'aime bien Nouradine qui dit on alors qu'il n'était même pas là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'était pas là.
Bah si, j'ai parlé, j'ai commenté. Bon, d'accord. Donc j'ai pas commenté ce match, ok. J'ai commenté virtuellement alors.
Non mais j'aimerais vous faire rebondir sur les paroles d'après-match de Kylian Mbappé qui disait « Il faut qu'on arrête de vendre de la peur ». Et tout le monde, j'ai l'impression que c'est typiquement français ça, partir perdant avant même de commencer le match. Tout le monde était défaitiste juste avant de commencer le match. On était vraiment, enfin même tous les supporters du PSG que je connais.
Alors oui et non.
Je leur demandais de se détendre.
Défaitiste, tu exagères.
Il y avait un contexte aussi avec le PSG. Hein. le PSG en Ligue des Champions ces dernières années, surtout depuis le Barça en fait, on n'arrive plus à se dire ouais c'est bon, c'est sûr, ils vont gagner et tout. On peut plus le dire en fait, on a du mal à le dire.
Complètement, et même là on peut pas s'empêcher d'avoir un petit peu peur par rapport au match retour, même si voilà, vu tous les blessés, vu le déroulé du match aller, ça devrait passer. Non, ensuite, ce qu'on pouvait voir aussi sur ce match, c'est que ça allait être un test du niveau du Paris SG dans une confrontation contre une équipe sérieuse. Et justement, un test plus sérieux que ce à quoi on pouvait s'attendre en première partie de saison quand Manchester était vraiment en difficulté. Et ce test était très concluant parce que même avec deux attaquants sur le côté, Paris réussit à mettre 2-0 à Old Trafford.
Et paradoxalement, on disait que Lyon avait peut-être la possibilité de passer contre le Barça. C'était complètement fou ça.
Ouais, mais justement, c'est ça qui était assez paradoxal. C'est-à-dire que il y avait limite plus d'enthousiasme juste avant le match de Lyon. On disait, bon, bah, un match nul à l'aller. Pouvait permettre éventuellement à Lyon, sur un malentendu, de gagner au retour et de passer
ou de faire un partout.
Je me demande si vous avez discuté de ça ici, mais je devais pas être là.
Non, là on parle pas de nous.
Pour
ici.
Dire que Barcelone allait.
Non, mais l'attitude des médias en général était beaucoup plus positive à l'approche du match de Lyon par rapport au match du PSG.
Après Barcelone, bon, il faut savoir aussi toute proportion gardée, mais bon, après Barça et Lyon. Ils ont un petit peu les mêmes défauts, en fait. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Par exemple, Lyon, même s'ils battent le Barça, je sais pas, 2-0 dans un match de Ligue des Champions, ça va pas forcément, moi, me surprendre, parce qu'ils sont capables de se transcender des fois et de faire d'excellents matchs. Sauf que Lyon est capable de faire ces matchs-là une fois de temps en temps. Ils l'ont fait à City. Quoi qu'on en pense, c'était une grosse performance. Bon, même si City a assez vendangé en attaque ce jour-là,
ils ont été
capables de le faire contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est une équipe
ils le font bien souvent contre des grosses équipes.
Justement, c'est pour ça qu'on pouvait espérer que contre le Barça, ils sortent en tout cas un match un peu plus intéressant que ce qu'ils ont montré la dernière fois. Parce que là, Lyon était. Je me demande comment. Je crois que Messi, ce jour-là, il a dû croiser un marabout dehors qui lui a jeté quelque chose. Je ne sais pas, tu l'as fait manger un truc bizarre. Mais avec un buteur, n'importe quel buteur dans cette équipe, Lyon aurait pris 4 ou 5 buts. Quoi.
Normalement. C'est pas la faute à Messi. Hein. C'est surtout la faute à Suarez qui était vraiment pas dedans.
C'est Suarez surtout.
Ouais, en plus, je ne sais pas pourquoi je cible à chaque fois Messi. Parce que ça fait plusieurs fois que je cible Messi sur le Barça. Mais effectivement, Suarez était complètement à la rue.
Je crois que Suarez, il n'a pas marqué à l'extérieur depuis septembre 2015. C'est-à-dire juste après leur retour.
Énorme.
Et
c'est fou.
Ouais. Il va rentrer à Liverpool, peut-être.
Alors après, peut-être que Lyon a davantage aussi de maîtrise, et c'est partie peut-être de la culture de ce club, davantage de maîtrise sur comment gérer une affiche. On se souvient par exemple que Lyon avait été éliminé le grand Real Madrid sur un partout 2-1, je crois, avec Higuain qui tape le poteau, c'était il y a quelques années.
À une autre époque. Ouais, c'est en 1950, ça, Gilles.
But de Pjanic.
Excellent joueur.
Mais quand même, quand on a un passé récent en Coupe d'Europe et qui est pas dégueulasse, ça pèse quand même dans.
Ouais, le Barça respecte énormément le. De toute façon, d'ailleurs, les Espagnols en général respectent énormément Lyon pour ce qu'ils ont fait dans les années 2000.
Oui.
Après, c'est plus la même histoire aujourd'hui.
Les tôles contre le Real.
Le coup franc de Juninho contre le Barça, je crois, d'ailleurs.
Non, c'était contre le Real.
C'était contre le Real. À 35 mètres.
Ouais, contre le Real. Le show, l'unique et seul show de John Carew.
Un grand match. C'était grand joueur, 2 mètres.
Mais ensuite, sur ce match, ce qu'il faut voir aussi dans l'analyse, je crois qu'il y a 25 frappes du Barça, qui ne marque pas. Mmh. Ça faisait aussi quelques années que c'était arrivé. Et donc, sur un malentendu, il y a encore un match retour.
Justement.
Et ça, déjà, c'est presque une surprise.
Et au match retour, il y aura Fekir.
Et ça comptait justement dans le côté pas très étincelant de la performance lyonnaise.
Non, mais c'est vrai. On n'est pas en train de dire que Lyon va devenir 50 fois plus fort. Mais t'enlèves Fekir, t'enlèves quand même le maillon fort de l'équipe. Quoi. T'enlèves le lion en fait.
Oh là là, j'ai cru qu'il allait dire ouais, mais au match retour, ils vont recruter Mbappé, ils vont recruter Neymar entre temps. Il y aura Fekir au match retour. Ouais.
Non, mais c'est comme Strasbourg sans Lienard, c'est pas tout à fait pareil non plus.
Mais en fait, le problème c'est que on a retrouvé le Fekir depuis le début de l'année ou c'est moi qui regarde pas le foot là ? Parce que pour moi, Fekir, il est complètement à la ramasse depuis qu'il est revenu de sa blessure. Il a fait quelques bonnes prestations.
Mais il les a fait en Ligue des Champions.
Il a fait deux
contre City.
Contre City. une prestation qui était une prestation d'équipe, hein, globale. Ils ont tous très très bien joué.
Une prestation individuelle.
Même Maxwell Cornet. C'est dire.
Amine Ouradi, une prestation individuelle ne fait pas tout. On ne peut pas enlever à cette équipe que la seule présence de Fekir rassure tout le monde dans les équipes. Et donc ses coéquipiers
ont
davantage de confiance quand Fekir est sur le terrain. Ça peut désinhiber certains joueurs et permettre à une équipe de se transcender sur 90 minutes.
Je vous le concède.
Et tactiquement, il y a aussi eu un vrai problème avec du coup Depay qui se retrouvait dans cette position de 9,5 meneur de jeu. Et pour le coup, c'est beaucoup plus un 9,5 qu'un meneur de jeu. Et du coup, il y avait des vrais problèmes dans la construction du jeu, et dans la tenue du ballon sur les sorties. Et paradoxalement, ça a aussi mis en difficulté la relance, mais sur la ligne un petit peu plus derrière, avec les deux 8 qui étaient positionnés au milieu défensif, Dembélé et Aouar, qui n'ont pas connu leur meilleur match. Alors que par exemple, à City, ça avait été des performances énormes au milieu de terrain.
D'ailleurs, coup dur pour Lyon, hein, puisque hier, Depay... a subi une fracture d'ego, donc il est incertain pour le match retour.
C'est une rechute. Pourquoi il a été mis sur le banc? Alors du coup j'ai pas suivi moi. Pourquoi il est sur le banc? Parce qu'il est mauvais. Enfin il est pas mauvais Depay. Moi je l'aime bien, genre c'est un bon joueur, mais c'est un joueur instable.
Il a besoin de se faire encadrer de temps à autre.
C'est ça exactement. C'est un joueur qui est très instable. C'est pile le joueur qu'il fallait. Enfin c'est pas un joueur qu'il fallait à Lyon.
Ah non.
C'est un très bon joueur, mais voilà, ils ont besoin de stabilité, de joueurs qui sont costauds, qui sont capables de renouveler les performances. Mais Depay est capable du pire, enfin du meilleur comme du pire.
Alors toi Elliot, qui suit les matchs de Lyon, et enfin, on va pas le cacher, tu es supporter de Lyon et tu es donc opposé à cette émission, un supporter de l'AS Saint-Etienne.
Non, je suis pas opposé, dans les prochaines minutes qui viennent.
On a mis un filet en fait entre les deux joueurs.
Il y a une table entre deux.
Je me battrai pas pour ça. C'est pas.
Non, mais tu y crois ou pas pour le match retour?
Non, absolument
pas. Non,
non, c'est pas possible. Ils ont réussi à bousculer un peu Barcelone sur la première mi-temps en essayant de leur imposer un jeu différent de ce qu'ils voient en Liga, mais en deuxième mi-temps, on voit qu'ils ont défendu, ils ont fait uniquement défendre et que c'était très difficile. Donc, au match retour, dans un autre stade, ça va être complètement différent. Et là,
est-ce que c'est pas ça la chance de Lyon, justement? Parce que si, moi, je vois bien les Barcelonais se dire aussi, bon, on a fait 0-0, on leur a mis 20 ou 25 frappes, on va les éclater au match retour. C'est déjà arrivé au Barça, hein.
Je pense que Messi s'est surtout fait piquer dans son orgueil pendant le match parce qu'il n'a pas réussi à marquer, il n'a pas réussi à les bousculer. Et là, ça va. Je pense qu'il va se relancer et il va y avoir un effet bulldozer. Et même Suarez va potentiellement avoir un impact plus intéressant que ce qu'il a eu.
On enregistre là l'émission, Julien. Moi, je dis 2-1 pour Lyon.
Ah ouais?
2-1 pour Lyon.
Il faut savoir que depuis le début de Parlons Sport, je crois que j'ai jamais réussi à pronostiquer.
C'est pas bon signe pour nous.
Tu peux nous ressortir, Julien, dans les archives.
Voilà, comme dans les archives. 2-1 pour Lyon.
Pour la prochaine fois.
Et comme vous m'avez survendu Fekir, Fekir va marquer un but.
Bon, Elliot, c'est un Stéphanois qui va te remonter le moral, mais franchement, je dirais qu'il y a, des chances pour Lyon que ça passe. Alors, je pense pas que Genesio va pouvoir rejouer le 0-0. Par contre, avec la règle du but à l'extérieur, non, mais à partir du moment où tu marques le but, ça devient beaucoup plus compliqué pour le Barça. Lyon, en toute proportion gardée, on parle quand même de Barcelone en face, mais a des qualités offensives et marquer deux buts, c'est pas quelque chose qui est impossible. En tout cas, ça peut permettre de passer vraiment une belle soirée de foot.
Après, surtout quand on voit les erreurs que font régulièrement l'équipe du Barça. Là, notamment en championnat, bon, ils ont réussi à retourner la situation contre le FC Séville, je crois que c'était ce week-end, avec une excellente deuxième mi-temps. Mais souvent, cette année, le Barça, c'est porte ouverte derrière. Je ne sais pas pourquoi.
Je pense qu'un choix Cornet à la place de Terrier pourrait apporter un petit plus de vitesse. Il bousculerait un peu plus les piquets et l'anglais qui ne sont pas très, très rapides. Je pense que ça aurait pu avoir un impact un peu différent de ce que Terrier a eu. Parce que Terrier, il n'est pas encore prêt, on le voit. Il n'est pas...
Ouais, il est encore tendre.
Il n'est pas encore prêt à porter un match sur ses épaules. On voit qu'il compte un peu trop sur ses coéquipiers, même s'il a fait une super frappe. Faut pas se cacher.
Sur la transversale.
Je pense que Cornet, au match retour, il permettrait de faire autre chose. Et notamment de bousculer aussi Dembélé défensivement, parce qu'il a une vitesse qui est comparable à la sienne. Et donc, ce serait plus difficile pour lui, justement, de faire les percées qu'il a fait pendant le match.
Sauf que sans mauvais jeu de mots, Genesio, Cornet, il le met souvent au frigo. Parce que il l'a fait jouer. Il y a du niveau. Parce qu'il a, franchement, qui s'attendait à voir Cornet remplaçant après le match qu'il a fait contre Manchester City?
Ouais, non, c'est vrai que c'était surprenant.
On se dit, on
non,
se dit
c'est
au
un
moins,
genre de coup, Cornet.
Ouais, mais même, on se dit. Coup, Cornet. En tout cas, on se dit, après ce match-là, il peut quand même essayer de, sur cette dynamique, en fait, de le mettre titulaire contre un match, enfin, contre juste après. En plus, je sais plus contre qui jouait juste après. C'était pas forcément une grosse équipe, mais en fait, voilà, pour essayer de garder ce joueur avec lui.
Oui, peut-être
mais
que
il
c'est
fait...
son rôle à ce joueur, tout simplement.
Ouais, de... mais non, mettant dans la tête de Cornet, il fait un super genre, on lui dit, c'est bon, t'es Messi. Parce que t'as fait un gros match à City, et puis juste après, il joue plus
ça,
pendant
4
ou
5
voilà, justement, 4 ou 5 matchs.
Mais il est encore jeune, Cornet, hein, aussi, hein, faut se le rappeler.
Il a quel âge, Cornet ?
Il a maximum 22 ans.
22 ans, ah ouais, d'accord.
On va vérifier. Voilà. À vérifier. Enfin,
ouais, il a commencé très jeune du côté
de Messi.
C'est un joueur qui a toujours eu du mal à se canaliser ou à être canalisé pour faire durer ses cycles de performance. Mm. Et les
mots
que j'ai entendus avant le match, c'est que sur sa dernière entrée, peut-être contre Reims, il avait été très décevant. À l'entraînement, il ne donnait pas du tout satisfaction. Mm. Et donc, du coup, Genesio a choisi de le mettre sur le banc.
Ouais. Ouais. Ok, il est encore un peu jeune aussi.
Mais on voit qu'il a quand même beaucoup progressé.
Il a
par
beaucoup
rapport
de talent. À... Moi, je trouve que c'est un joueur qui
a
très
Il a beaucoup progressé par rapport au moment où il est arrivé. Son dribble, il était super stéréotypé. Quand il est arrivé, il bougeait juste la jambe et puis c'était fini. Ça servait à rien et maintenant on voit qu'il y a quand même un peu de travail et qu'il fait plus que du tout droit. Donc à voir.
Et puis à propos de tout droit ou plutôt d'anti tout droit, peut-être dire un mot de Barcelone. Moi c'est une équipe qui m'a beaucoup fait rêver quand j'étais gamin. C'était l'équipe de Messi mais aussi de Puyol et de Xavi. Et je trouve vraiment, enfin ça se voit de plus en plus chaque année, mais depuis qu'il n'y a plus de Xavi, c'est une très belle équipe. Il n'y a pas de souci, mais elle n'a pas ce temps ou ces deux temps d'avance qu'elle avait systématiquement dans la construction, dans la réflexion autour du jeu. Mais Xavi encore plus qu'Iniesta, c'est Xavi vraiment qui réussissait à irriguer toute l'équipe, à construire les actions, mais tu vois, par une simple passe, une simple déviation, il donnait un rythme à l'action, il donnait une suite logique à l'action.
Et c'est ce qu'ils veulent retrouver avec De Jong, justement. Alors, pas directement l'année prochaine, mais sur plusieurs années.
Complètement. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que du coup, l'école de jeu du Barça vient de l'Ajax.
Exactement.
Et là, du coup, ils repartent sur l'Ajax, mais De Jong n'est pas le joueur typique de l'Ajax non plus. Notamment, il a tendance à conserver un petit peu plus le ballon, à faire pas mal de touches de balle et à jouer aussi pas mal latéral, voire
vers l'arrière. Xavi gardait beaucoup le ballon.
Oui, mais en jouant
rapidement.
J'avais
gardé beaucoup le ballon.
Un match au Stade de France avec Michael Siani en charnière centrale. Je crois que c'était son dernier match en équipe de France. Il n'y avait que 2-0, mais c'était un massacre.
Ça suffisait de dire Michael Siani. Ouais, ça suffisait.
Et le ballon ne quittait pas les pieds des Espagnols. 2-0, mais ça pouvait être 6 ou 7.
Ouais, ouais. Par contre,
j'y étais.
Il quittait beaucoup les pieds de Philippe Cristanval hein, à l'époque où il jouait à Barcelone. Je ne sais pas si ça te faisait rêver, ça. Philippe Cristanval, Frédéric Déhu.
C'est des coups bas, ça. Dugarry aussi qui a joué au Barça.
Dugarry, Emmanuel Petit.
Non, Emmanuel Petit, c'est autre chose. C'est pas le même niveau.
Ouais, mais il était pas bon au Barça.
Ouais, bon, il était pas bon, mais c'était un très très bon joueur, Emmanuel Petit.
Cristanval aussi.
Oh, Cristanval, c'est pas le même niveau.
Et...
Bon, bref.
Et Ludovic Juli qui est très respecté au Barça, ouais.
Oui, qui est un très bon joueur aussi.
C'est vrai.
Bon, messieurs, je vous propose de passer à un football qui fait moins rêver, le football de la Ligue 1. Où donc, hier, on a eu un match. Qui en temps normal aurait dû être une grande affiche du championnat, Monaco-Lyon. Et Monaco qui s'est racheté une équipe, qui s'est racheté un entraîneur et qui s'est à nouveau rejoué au football apparemment, qui s'est imposé 2-0 contre Lyon. Si je vous dis quelques équipes comme ça qui sont dans le top 10, on retrouve...
Ils sont combien là, Monaco d'ailleurs ?
Monaco, ils sont 16e. Voilà, ils sont offerts une petite bouffée d'oxygène par rapport à la... 18e place qui est barragiste. Mais bon, parmi les équipes en forme, on retrouve Angers, 12e, Nîmes, qui est un très bon niveau, Strasbourg, 8e, Montpellier, 7e, Reims, 6e, qui a gagné, qui reste sur une série de 4 victoires en 5 matchs, les Rémois.
Saint-Étienne. Qui sont allés battre Montpellier, du coup, chez eux.
Ouais.
Et on n'en parle pas beaucoup. Ils ont fait un super recrutement cet hiver. Hein. Ils ont
Reims.
Trouvé deux, trois petits joueurs qui sont sympas.
Saint-Etienne 4e, Lille 2e derrière, très très loin. Derrière le PSG qui est très loin en tête.
Saint-Etienne qui a un vrai coach. Maintenant, on sait dans le duo cassé Laurent Blanc qui était l'entraîneur.
Donc ça fait depuis longtemps. Ça.
Complètement. Et personnellement, j'ai passé un très bon week-end en tant que supporter des Verts. Parce que au hasard des matchs, on a gagné des points sur tous nos concurrents directs, à part le PSG.
PSG, c'est hors course.
Voilà, mais tous nos concurrents directs, on a gagné soit 2 points, soit 3 points, et on s'est bien lancé au classement, ça va être une fin de saison intéressante. Ouais.
Non, là, c'est une équipe pas mal.
Et toi qui es supporter de Saint-Etienne, comment tu analyses la situation qui s'est passée avec Selnaes?
Rappelle-nous la situation d'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas. L'attaquant de...
Le milieu,
ouais. Le milieu de Saint-Etienne.
Qui est parti en Chine de façon assez incroyable.
Ouais, c'est-à-dire.
Alors développe, parce que je n'ai pas suivi du tout l'histoire.
Un club chinois lui proposait un meilleur contrat. Lui, il voulait être transféré, parce qu'il voulait être payé.
L'opinion publique dans son pays était absolument contre et le voyait vraiment comme un mercenaire, ce qui est dans ces pays-là du Nord qui est vraiment rare.
Ah, c'est les Norvégiens.
Et du coup, ils ont cassé le. Il n'y est pas allé finalement en Chine.
Si, mais c'est pour ça que c'est un peu un imbroglio parce qu'il devait partir.
Est-ce que c'est vraiment une grande perte pour Saint-Etienne? Ça va, c'était un bon joueur, ok, mais.
C'était un bon joueur, il était très intéressant dans le milieu de terrain défensif qu'avait installé Gasset, avec un duo du coup, avec Mvila, mais en pied inversé. Selnaes gaucher à droite et Mvila à gauche. Et du coup, ça donnait un jeu qui était très intéressant.
Ah oui, je revois le joueur, c'est bon.
Numéro 6, mais avec un jeu de passe qui est quand même de haut niveau. Peut-être une qualité de passe qui est encore plus grande pour Mvila, mais vraiment une vision du jeu et une élégance de passe chez Selnaes qui était très intéressante. Tant qu'il a joué, c'est un joueur qui se donnait beaucoup pour l'équipe et donc du coup c'était je pense pour pas mal de supporters un petit peu à la fois une surprise et une déception de voir ce qui s'est passé. Ensuite voilà, c'est de plus en plus fréquent de voir des footeux qui comprennent que bon, ils feront jamais une immense carrière et qui à un moment décident de privilégier l'aspect financier.
En tout cas, moi je le comprends tout à fait, hein, franchement.
Mais moi je le comprends mieux dans le cadre d'un footballeur qui vient d'un pays qui connaît ou d'une famille qui connaît des difficultés économiques. Dans le cadre d'un Norvégien, c'est un petit peu plus surprenant. Mais bon, c'est le football d'aujourd'hui.
Ça reste de l'argent pour un Norvégien.
Mais bon, sinon, on retrouve une équipe solide, Lille. Deuxième, souvenez-vous de Lille, l'année dernière, c'était la cata.
La catastrophe avec Bielsa. Qui est en train de refaire un peu catastrophe bis en Angleterre, non?
Non, il est en tête.
Ils sont toujours en tête. D'accord, j'ai rien compris. J'ai cru qu'en fait, c'était un super début de saison. Tout le monde en sauce et Bielsa, et puis après, ils ont enchaîné plusieurs défaites.
Ils en ont beaucoup parlé, surtout à cause du fait qu'il envoyait ses stagiaires espionner les autres équipes.
Voilà, c'est du grand Bielsa.
Ouais. Il les envoyait dans les bars adverses pour savoir ce que les supporters pensaient.
Ah oui, carrément.
Ouais,
ah ouais, c'est pas mal.
Pour analyser la tactique, je suis sûr qu'il y a mieux.
Mais les Leeds, ils sont troisième à 2 points, à 2 points du donc leader.
Ils ont perdu leur tête, mais ils sont encore dans les clous.
Ils restent sur une série de victoires là. Bon, c'est nécessaire qu'on parle du PSG ou pas?
Dépend pour dire quoi.
Pour revenir à Lille, on peut dire que on voit que un grand coach ça peut faire beaucoup de choses et je pense que Galtier commence à en faire partie.
Ouais, c'est un excellent coach, je suis d'accord.
Ouais, c'est vrai que Galtier il a aussi cette qualité d'être respecté par ses pairs et sous un entraîneur comme Carlo Ancelotti avait dressé les louanges de Christophe Galtier à l'époque où il entraînait Saint-Etienne.
Tourelle pareil. Même s'ils ont perdu, mais bon,
Tourelle quand même. C'est assez curieux son départ de Saint-Etienne où il n'a pas réussi à trouver une grande écurie. Finalement, il est revenu en catastrophe un peu à Lille, mais pour l'instant.
On peut estimer que Lille est une grande écurie au vu de ce qu'avait été. Enfin, grande écurie. On se comprend. Niveau de l'investissement qui a été mis, en tout cas, pour en faire
un des top 3.
Je pense qu'il va être vite déçu au niveau du projet, hein, puisque l'objectif de Lille, c'est de former des joueurs, de les revendre et puis d'en faire un Monaco bis, quoi.
Bon, voilà. Écoute, après, ça a des limites. Hein. Regarde Monaco. Hein. Ils ont eu chaud cette année. Hein. Enfin, ils ont eu chaud. Ils ont encore chaud, c'est pas fini. Hein. Mais bon, ça devrait le faire quand même.
C'est parce qu'ils ont changé de directeur sportif. Hein. On voit les recrues sont différentes. Et justement, ils disaient qu'il y avait un problème par rapport à ça. Peut-être Campos allait revenir parce qu'il n'est pas salarié à Lille. C'est juste sa société. Lille emploie sa société pour faire le recrutement. Et justement, on voit la différence en termes de recrutement. Et il s'en plaignait. Et je crois qu'il a été licencié depuis le directeur qui gérait ça à Monaco. C'est ouais. aussi, faut aussi le souligner. Mmh. C'était le travail de Campos qui faisait que l'équipe était solide, même avec tous les départs.
Mmh. À noter d'ailleurs que Nicolas Anelka qui entraîne les attaquants à Lille.
Ah, il entraîne les attaquants
ouais,
à Lille.
Ouais, les entraîne. Ouais.
Ok.
Pour dire un mot sur Reims, moi il y a un truc qui m'a interpellé tactiquement, c'est ils jouent avec des attaquants sur les côtés, Oudin, Chavaria,
ouais,
mais des joueurs qui pourraient aussi très bien évoluer en pointe, et ça donne des possibilités tactiques qui sont intéressantes sur le jeu long, de pouvoir trouver des relais en une touche du coup sur le jeu de tête sur les côtés, et de pouvoir avoir du coup c'est des ailiers, des attaquants qui rentrent pour jouer les centres au deuxième poteau, et dans le football moderne c'est une arme tactique qui permet souvent de faire des différences. Un autre exemple de cette tactique, ça va être par exemple Angers à l'ancienne avec Check and Doy qui vient rentrer dans la surface. Ou alors, pareil, peut-être le meilleur exemple de ça, c'est Marwan Fellaini, qui est un footballeur assez limité, mais un joueur de tête exceptionnel au milieu de terrain. Et souvent, dans une équipe, on va se retrouver avec 3 ou 4 joueurs qui sont bons de la tête. Traditionnellement, ça va être le numéro 9 et 2 défenseurs centraux. Et du coup, et d'autant plus avec la modernisation du poste de latéral qui deviennent des faux ailiers et donc des gabarits plus petits et donc moins bons de la tête, ça permet très souvent de trouver des brèches dans la surface, d'avoir un joueur qui va être dominant de la tête et qui va arriver soit au deuxième poteau, soit en deuxième rideau, selon qu'il soit positionné en 8, qui rentre dans la surface, ou alors en ailier. Et voilà, il y a pas mal d'équipes qui ont utilisé cette arme tactique dernièrement. On pourrait même penser au PSG, période Ibrahimovic-Cavani, où Cavani était comme ça attaquant et pouvait rentrer en deuxième rideau dans la surface. Et donc voilà, je trouve que c'est une des choses intéressantes qui se passe tactiquement à Reims. Reims, c'est peut-être comme Strasbourg ou Montpellier, bon, qui connaît
quelques
petites baisses de tension. Ouais. Ouais. Mais au fait, c'est juste des équipes qui travaillent sérieusement, avec patience depuis le début de saison, et aujourd'hui ça commence à payer pour Reims.
Je te propose de garder la parole, Quentin, mais pour nous parler un petit peu de ton vécu, de ton passé, puisqu'on le rappelle, tu as été pensionnaire du centre de formation du PSG quand tu étais un peu plus jeune. Raconte-nous comment les choses se sont déroulées, comment tu as atterri au centre de formation, comment ça s'est passé.
Et surtout, est-ce que tu as croisé Adrien Rabiot?
Ouais.
Alors, centre de formation, c'est un grand mot, hein, j'étais en poussin. Mais j'ai pas croisé Adrien Rabiot qui était pas encore au club à ce moment-là. Mais non, franchement ça a été un immense honneur. En fait, j'habitais pas loin, donc c'était le club du coin, et dans les tranches d'âge où j'étais, c'est vraiment encore un club local qui brasse assez large, mais voilà, il y a beaucoup de gamins encore qui jouent en petit club, et c'est peut-être plus vers les 13 ans que là on commence à avoir une vraie mise en place d'un centre de formation avec des gamins qui vont venir de tout le pays ou de toute la région parisienne. Mais donc ça avait ce côté à la fois club de foot du coin où j'étais là avec les copains, et à la fois on portait le maillot du Paris Saint-Germain, l'uniforme complet. Dès qu'on allait jouer un match à l'extérieur, c'était le match de l'année pour l'équipe en face qui allait pouvoir jouer le PSG. Et enfin non, c'est le camp des loges, voilà, quand t'es gamin et que tu vas t'entraîner et que t'arrives en retard à l'entraînement parce que il y a l'entraînement des pros, il y a Ronaldinho ou Ogbeche qui viennent te signer des
Bartholomew Ogbeche. Ouais, oublié lui.
C'était pas le dernier pour les autographes. Bon, il était un petit peu moins demandé par les gamins que Ronaldinho, mais donc ouais, j'ai passé 3 ans là-bas, et franchement c'était très intéressant au niveau du football aussi. Peut-être pour expliquer un petit peu comment ça se passait à l'époque au PSG, il y avait un entraînement par semaine, et en fait c'était aussi un petit peu de la détection des talents techniques. On s'entraînait beaucoup sur des exercices techniques comme les jongles, etc. Voilà, quand il y avait une opposition et qu'il y avait match nul, c'était pas au tir au but que ça se jouait, c'était aux jongles. Et notamment, tactiquement, ce qui se passait, c'est que les gamins étant jeunes, le club refusait de donner des positions à des joueurs, et on n'arrêtait pas de tourner, de se retrouver en attaque.
Oh, ça permet de travailler les postes aussi. Ouais.
Et donc j'ai passé quelques années là-bas. Ça avait un petit peu un côté usine, forcément, quand il y a des centaines de gamins. Mais non, c'était une très bonne expérience. Et après, quand je suis allé dans les équipes plus modestes, franchement, à cette époque-là, ouais, j'avais un temps d'avance, que ce soit techniquement, tactiquement, même physiquement, même si c'est pas l'aspect le plus travaillé à cet âge-là. Enfin, non, vraiment une belle expérience.
Mais on vous imposait.
Et puisque tu me demandes à moi aussi, Gilles, j'ai joué à Élan-Saint-Neuf, donc à Élancourt. J'ai joué à Fontenay-le-Fleury, voilà, en division de district. Ouais, c'est moins sexy que le PSG.
Mais moi, j'ai joué à plaisir, moi.
Plaisir.
J'ai joué à plaisir, effectivement.
Tout le monde sait que tu n'as jamais joué au foot. Allez, la suite.
Ben je m'en fous, je te prends un FIFA quand tu veux.
Non mais voilà, il y a un truc.
Plus, ça, c'est pas fou en plus.
Il y a un truc important avec le foot, c'est qu'on peut être on peut être amoureux de ce sport, on peut être passionné comme tellement de monde, sans être forcément personnellement très doué, quoi.
On vous imposait un cadre tactique ou pas à l'époque déjà en poussin? Est-ce qu'on vous...
C'était en quelle année déjà?
C'était pas le PSG du Qatar.
C'était pas encore le PSG du Qatar. C'était en quelle année à peu près?
C'était en 2000 à 2003.
D'accord.
Et ouais, ça va. Alors, en fait, comme on n'était pas encore 11 sur le terrain, souvent ça jouait sur des petits terrains, il n'y avait pas vraiment d'opposition de formation classique. Et justement, moi, mes souvenirs de cette époque-là, c'est que c'est la tactique qui est le moins développée chez les gamins à cette époque-là. Donc, tu te mettais d'accord avec, avec deux, trois copains pour organiser des combinaisons sur corner, etc. Et ça marchait souvent.
Et il y a pas une certaine pression qu'on ressent déjà tout jeune ou alors non, vous êtes complètement désinhibé, la pression on la ressent peut-être un peu plus tard, pas forcément dans les catégories de poussins.
Alors, je pense qu'on la comprend pas tout à fait, mais ensuite la pression elle est là, t'es quand même dans les vestiaires à côté des pros, enfin tu sens que t'es dans un grand club et que tu vas pas faire n'importe quoi. Mais ensuite, je pense, non, il y a pas mal de gamins qui avaient la pression, mais c'est plutôt la famille qui met la pression que les gamins qui se la mettent eux-mêmes, quoi.
Avec des parents un peu... Les parents deviennent tarés, hein. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais moi, j'ai souvenir de passer devant des stades et tu vois les gamins qui jouent au foot tranquillement. Voilà, ils ont quoi, 7-8 ans, et puis tu vois les parents qui sont en train de hurler sur les gamins comme s'il y avait des Ronaldo ou des Messi là, qui étaient devant, ou des futurs potentiels Messi, et qui commentent toutes les fautes du gamin. Allez, mais pourquoi t'as fait balance comme ça? Mets la main à gauche! Ok, vas-y! Allez! Voilà, pendant une heure. Alors imagine, là, c'est bien pour le développement personnel.
Ouais, bref. Bon,
alors remarque, le père de Thierry Henry était comme ça, son fils a pas mal terminé dans le foot.
Oui, ouais, bah, un Thierry Henry pour comprendre. <c'est bien. rire> Pour combien de Nouradine?
Bon, messieurs, on accueille avec nous Ayoub Ferjani, qui est donc maître d'armes à l'Escrime Club de Trappes, arbitre international. On évoquera avec vous votre passé assez atypique dans quelques instants. Donc, merci d'être avec nous, Ayoub.
C'est un plaisir. Bon, bonjour tout le monde.
On était sur deux foot, là. Il y a une équipe que vous supportez en particulier en France. Ou en Europe
En France, bon, vu que je suis dans la région parisienne et que j'aime bien gagner, donc je supporte le PSG.
C'est plus facile.
Voilà.
Bon choix.
Donc en Europe, quand j'étais jeune, c'était plutôt Chelsea. C'était l'effet Didier Drogba, tous ces joueurs qui m'inspiraient. En plus, c'était l'effet que Chelsea qui pouvait battre Barcelone et ainsi de suite. C'était les concurrents des grandes équipes espagnoles. Donc. J'aimais bien Chelsea, j'aimais bien toujours être encourager l'équipe qui a moins de chances de gagner la Champions League dans les grandes équipes. Et je on se rappelle tous de Chelsea, de ce, peut-être des gens qui aiment que Chelsea gagne, le petit scandale entre Barcelone, c'est tout.
Ah oui, avec le but d'Iniesta à la fin du match et Didier Drogba qui a crié à la fin du match « What a fucking disgrace !» Voilà.
C'était en quelle année ça déjà?
Oh, je me rappelle plus. C'était en quelle année
plus, ça? Mais c'était avec Gus Hiddink, le coach de Chelsea à l'époque.
Ah bah, bonne question, Julien.
C'était. 2012?
Ah non, 2007, 2008
quand même.
Ah, plus tard que ça.
Avant la victoire en Ligue des Champions que.
2010-2011, un truc comme ça, non?
Ouais,
je dirais, si tu restes ça.
Peut-être
2010-2011, ok. C'était plus tôt.
Bon, en tout cas, vous parliez de Chelsea. Chelsea qui a perdu une nouvelle fois en League Cup contre City avec une scène assez incroyable. Je sais pas si vous avez vu à la fin de la prolongation.
Le gardien qui voulait pas sortir.
Là, le coach Sarri qui a vu son autorité être mise en cause par son gardien qui avait l'air d'être blessé. En tout cas, elle avait des crampes et l'entraîneur lui a dit de sortir.
Apparemment, c'est un malentendu.
Je crois même pas que c'est ça, parce qu'apparemment, le gardien remplaçant vient de City. Je sais même pas qui c'est le gardien remplaçant de Chelsea.
C'est Caballero.
D'accord, bah apparemment il jouait à City avant.
Ouais, ça aurait
et
pas,
il connaissait très bien les joueurs.
Intelligent
et,
du coup.
Et il était très bon en fait, il est très bon au penalty. Et du coup, les joueurs de City d'ailleurs, je crois que c'est Kompany qui a dit j'étais hyper rassuré de pas le voir rentrer justement parce que avec lui on aurait tous flippé quoi. Mais par contre, je savais pas que c'était possible qu'un joueur refuse de sortir.
Non, en fait, le joueur, tant que normalement, si l'arbitre de touche lève le drapeau et que le panneau avec le numéro du joueur et que l'arbitre demande le, et que le changement est engagé, normalement tu peux pas changer.
Ouais, mais, mais donc l'arbitre n'avait pas encore.
Non, il n'a pas enclenché.
Il attendait la confirmation du coach.
C'est ça, exactement.
Du coach principal.
Ah, il était fou.
Il n'est jamais.
Apparemment, c'est un malentendu puisque lui, on le voit sur les images faire non, c'est bon, ça va. Comme si on lui demandait de sortir parce qu'il était blessé.
D'accord.
Et lui, il n'arrête pas de répéter à ses coéquipiers. Non, c'est bon, c'est bon. Je peux rester, c'est bon, je suis pas blessé.
Ouais, tu es un peu naïf là, Nouradine. C'est clairement une remise en cause de l'autorité et du coach. Et moi, je pense que si c'était votre poulain Ayoub, vous l'auriez peut-être
embroché. C'est ça que tu veux dire.
Il ne sera pas titulaire les 10 matchs d'après, ça c'est sûr. C'était bon.
C'est pas ce que vous auriez fait avec un Fleuret. Hein.
Ah, bon. Ça c'est sûr. Mais bon.
Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a aucun joueur qui va voir le gardien et qui lui dit non, mais tu te calmes, mais c'est lui qui décide. Quoi.
David Luiz, il y est allé.
Non, non, non.
David Luiz, il y est allé.
C'était le rôle du capitaine, normalement.
Mais David Luiz, qui était capitaine, est allé voir Kepa. Pour lui dire, bah voilà, c'est la décision du coach.
Non, 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 on sait pas ce qu'il dit. Vous interprétez maintenant ce qu'il dit. Il cachait sa bouche et il était en train de discuter. Et du coup, David Luiz est allé sur le bord du terrain pour parler après avec les. Et après, ils ont dû lui dire, mais non, on s'en fiche qu'il soit blessé ou pas, on veut changer.
Bon, j'aurais dû choisir Barcelone, ça aurait fait.
mais voilà. C'était pas sûr, surtout que Sarri, il a des difficultés avec cette équipe de Chelsea, c'est surtout ça le débat, c'est que ça marche pas, quoi.
Et peut-être que cet événement-là est justement qu'aucun joueur aille le sortir du terrain, enfin, je sais pas, moi, c'est ce que j'aurais fait, c'est ce que Carles Puyol aurait fait, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ça veut peut-être dire aussi quelque chose sur l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire.
Non, parce que ça lui fait peut-être louper une compétition, quoi. Enfin, ils auraient pu repartir avec une coupe. Peut-être que si le gardien, effectivement, de City connaissait bien les tireurs, c'est sûr que ça fait flipper. Hein. Moi, c'est ton gardien d'entraînement, quoi. Donc, il te connaît par cœur. Donc, effectivement, ouais.
C'est sûr.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on parle d'un noble sport à partir de maintenant. Nous allons parler.
Ah, pourquoi nous, c'est un sport de bouseux, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, carrément.
Ah, ouais, d'accord.
On va parler d'un.
De l'épée, quoi.
D'un sport sérieux qui a fait sa première apparition olympique à Athènes en 1896, messieurs.
Donc, au premier JO.
Et ouais. Donc, on parle bien sûr d'escrime avec nous. Nous avons l'honneur d'avoir dans les studios Ayoub Ferjani, qui est donc maître d'armes à l'escrime club de Trappes. Donc c'est la première fois que vous veniez, c'est un honneur pour nous. L'escrime club de Trappes qu'on invitait régulièrement dans l'émission.
Avec Julien Camus. Ouais.
Julien Camus, il est toujours au Canada d'ailleurs, vous
ne
savez pas.
Oui, il est toujours au Canada.
L'escrime, alors on va parler de ce sport de manière générale, mais on attend... on en parle beaucoup une fois tous les 4 ans aux Jeux Olympiques parce que, eh bien, on met la pression à la délégation française pour qu'il y ait des médailles. Et vous-même, vous avez concouru au dernier JO. Enfin, on en parlera dans quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire là quel est l'état de forme de l'escrime française sur la scène internationale? Est-ce qu'on a les JO sont déjà programmés dans un an? Et est-ce qu'on va avoir des médailles? Est-ce qu'on est plutôt bon sur la scène internationale? Est-ce que le renouvellement est bon?
En tout cas, pour le moment, oui. Quand on voit les... Parce que chaque année, il y a 8 étapes de Coupe du Monde, plus les championnats du monde. Et les saisons dernières, la France, sur les 3 spécialités, il y a 3 spécialités en escrime, le fleuret, l'épée et le sabre. Et il n'y en a pas une spécialité où la France n'a pas réussi à raccrocher des médailles de bord sur les Coupes du Monde. Donc par rapport, le seul problème qu'a eu la France, c'était lors des Jeux Olympiques 2012, où historiquement, c'était la première fois qu'ils n'ont pas eu de médaille. Ils ont réussi à rattraper ça lors des Jeux de Rio. Et pour le moment, d'après les résultats, d'après les statistiques, ils sont sur la bonne voie de gagner des médailles. Après, de quelle couleur ? On le saura le jour J, parce qu'on sait, les Jeux Olympiques, tu peux être à 90 contre 10, c'est sûr que c'est toi qui vas gagner, mais tu l'auras
pas. C'est pas toi qui gagne.
Après, il y a les grands pays qui y travaillent, c'est sûr que ça va... La majorité des médailles va être entre eux, les États-Unis, Russie, Italie, France. Après, il y aura toujours des surprises. C'est un sport de combat, c'est un sport individuel. Les gens qui se préparent bien, il y a toujours des surprises lors des Jeux Olympiques. Mais statistiquement, ça va être toujours les 4-5 grands pays qui vont ramasser le plus gros lot des médailles.
Alors, est-ce que vous savez que les 6 épreuves seront programmées aux
Jeux Olympiques? Effectivement, oui.
Parce que
c'est tombé il y a 2 mois.
Ouais.
Cette année, il y aura 12 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Par contre, pour le moment, ils ne rajoutent pas le nombre de participants. Ça veut dire qu'il y avait 40 tireurs au fleuret, 40 tireurs à l'épée, 40 tireurs au sabre, par exemple. Le Comité Olympique International, le président était un ancien champion mondial d'escrime, ils ont eu un accord, ils ont rajouté les 2 médailles d'or à l'escrime, sauf qu'ils ne rajoutent pas le nombre de participants et ni le nombre de jours d'organisation. D'accord. Donc la Fédération Internationale, elle doit gérer ça lors des 10 jours d'organisation. À la base, pourquoi il y a 10 médailles ? Parce que le sabre féminin n'existe pas. Il y avait 6 épreuves, dans le sabre, il faisait pas partie le sabre féminin, il faisait pas partie. Et depuis Athènes 2004, ils ont fait rentrer le sabre, du coup, tu as 2 médailles en plus, le sabre individuel et le sabre par équipe féminine. Et du coup, depuis ce moment-là, il y avait toujours un genre de tirage au sort où ça tournait, il y a eu 2 médailles par équipe qui sont levées. Ça fait mal quand tu as une équipe qui est très très forte comme l'Italie à un certain moment dans une spécialité et qu'il n'y ait pas au jeu.
Ouais, vous devez attendre 8 ans pour pouvoir concourir au jeu avec la règle de l'alternance qui était une règle assez curieuse quand même.
C'était pour trouver une solution avec les 10 médailles. Maintenant, il y a les 12 médailles. On va voir comment la Fédération internationale va gérer ça. Ils vont sûrement réduire le nombre de quotas de qualifiés par zone. Par exemple, l'Europe, elle aura moins de qualifiés, l'Afrique, moins de qualifiés, l'Asie, moins de qualifiés, pour essayer de faire le nombre pour les Jeux Olympiques.
Alors,
qu'est-ce qui différencie les 3 pratiques ?
Les surfaces valables, ou touchées, et les règles de priorité. L'épée, par exemple, où la France elle a réussi à rester 8 fois championne du monde de suite avec les Jeux Olympiques pour l'épée par équipe. Il n'y a pas de règle de priorité. Tu touches avec ton épée dans tout le corps. Le premier qui touche a le point. Si on touche en même temps, que ce soit en attaque ou en défense, les deux, on aura le point. Bien sûr, à 14 partout, parce que l'élimination directe en individuel, c'est jusqu'à 15 points. Tant qu'il y a des doubles, le point ne compte pas. Il faut qu'une seule lampe s'allume.
Oui, quand on touche en même temps, il n'y a pas de...
Voilà, exactement. Le fleuret et le sabre, c'est plus ou moins les mêmes règles de priorité. L'arbitre doit toujours identifier c'est lui qui a attaqué ou c'est lui ou c'est l'autre qui a pris la priorité en tapant le fleuret ou en se défendant. La seule différence, c'est qu'au fleuret, tu touches qu'avec la pointe, le bout du fleuret. Et au sabre, tu touches avec le tranchant, avec toute la lame, la partie haute, toute la partie haute. C'est pas que le ventre et le dos. Du coup, automatiquement, le sabre, puisqu'on touche avec toute la lame, c'est une arme hyper rapide. Quand tu vois, le fleuret, c'est assez rapide aussi par rapport à l'épée, mais le sabre, dès que l'arbitre dit aller, au bout de 2 secondes, il y a une touche. Donc, quand il n'y a pas une touche, au bout de 2 secondes, les deux athlètes ils sont morts physiquement parce qu'ils ont dû faire l'aller-retour de la piste de 14 mètres plusieurs fois.
Qu'en est-il de la fuite des talents au niveau de l'escrime ou un exemple très concret, Hugo Bry, qui a été l'entraîneur des épéistes champion olympique en 2016, est aujourd'hui l'entraîneur
en Chine, non
en Chine. Voilà, c'est ça. Et on a eu depuis plusieurs années, dans toutes les disciplines, des maîtres d'armes qui ont été démarchés par la Russie, par l'Italie, par la Corée.
Et ainsi de suite.
Et donc, ils ont quitté le territoire français pour aller faire valoir leurs compétences ailleurs. Pour être mieux payés. C'est sûr, c'est pas
une mauvaise chose en soi. Ça montre qu'il y a des bons niveaux, des bons maîtres d'armes français. Ça a commencé historiquement. Il y a des grands maîtres d'armes français comme Hugo Bry ou Daniel Vavasseur qui était en Chine avant. Christian Bauer qui a réussi à gagner des médailles d'or un peu partout en Europe et dans quelques pays asiatiques aussi. La Chine surtout. Après, c'est l'offre et la demande. Ces pays, ils ont un budget au niveau. Ils veulent toujours rester 1-2 sur le nombre de médailles. Ils investissent, ils cherchent les talents. Ils ne vont pas chercher quelqu'un qui n'a pas déjà gagné de médaille pour lui donner sa chance. Donc, ils essayent de détecter. Ils mettent le paquet pour ramener. Ils mettent vraiment des bons salaires, des bonnes primes en cas de victoire lors des Jeux Olympiques. Et du coup, c'est l'offre et la demande. Il y a des bons maîtres d'armes en France. Il y a des gens qui veulent payer. C'est comme au foot, pourquoi tel coach bouge d'un club à l'autre pour l'argent. Donc c'est plus ou moins la même chose. Ça commence à être beaucoup plus professionnel parce que les gens ils mettent beaucoup d'argent pour recruter les maîtres d'armes.
Alors l'escrime est en général pourvoyeuse de médailles olympiques tous les 4 ans lors des JO. Et c'est aussi un sport pourvoyeur de ministres. au plus haut niveau, puisqu'on se souvient de Jean-François Lamour qui a été ministre, Laura Flessel qui a été ministre des Sports, elle aussi.
Éliminée pour faute technique.
Voilà.
Oui, qui a été piquée la guêpe, comme on dirait.
Le fait d'avoir eh bien, des pratiquants et des champions d'escrime à la tête de la politique sportive du pays, est-ce que ça, et dernièrement avec le passage de Laura Flessel, est-ce que ça vous a aidé dans le quotidien, vous en tant que soit en tant que licencié ou alors en tant que maître d'armes?
En tout cas, même si ça aide pas peut-être côté financier directement, ça touche. Tant que c'est un escrimeur qui est ministre des sports, tu vas dire ah tel ministre était escrimeur, il était champion olympique. Ça reste bien pour l'escrime. Je sais bien aussi qu'ils ont réussi à devenir ministre. C'est sûr qu'ils ont fait plein de choses avant, bossé, de la politique. Je pense que ça vient pas comme ça. Honnêtement, moi personnellement, ça me touche pas directement puisque je ne suis pas trop la politique, l'influence des ministres. J'ai entendu parler que maintenant, le sport, ils veulent supprimer quelques subventions. Et malheureusement, ça va tuer... Après, théoriquement, ça va tuer les associations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont présenter en contrepartie. Et voilà, en gros, tant que quel que soit qu'il soit escrimeur ou pas, s'il fait du bon pour le sport, nous, ça nous fait plaisir. Et pour les associations, et pour une ville comme Trappes ou d'autres plein de villes qui vivent grâce à ces subventions, qui représentent bien leur ville lors des championnats de France grâce à ça.
Parce que quand même, l'objectif donné par Laura Flessel quand elle était ministre des Sports, c'était deux fois plus de médailles en 2024, mais avec moins de moyens.
Je ne sais pas comment ça va être fait. C'est sûr qu'il y aura des moyens ailleurs.
Ils ont réduit le nombre de sportifs de haut niveau. Enfin, la liste, ils l'ont réduite. Du coup, ils mettent plus d'argent pour le nombre réduit de sportifs. Donc il y a un meilleur entre guillemets un meilleur encadrement, ils sont moins, donc il y a plus de, ils sont mieux encadrés.
Ouais, mais bon, c'est aussi la politique sportive de l'agglomération qui donne des subventions aux clubs de haut niveau,
comme on dit.
Mais bon, pourtant les talents, on les repère dans le vivier sportif, c'est-à-dire que dans toutes les villes. C'est comme ça que se construit le sport français, c'est au sein de chaque club.
C'est sûr, nous, en tout cas je parle d'escrime, on essaie de toucher le maximum de population, on essaie de, même ici dans les écoles, on essaie, si les gens viennent au club, tant mieux, parce qu'ils peuvent voir c'est quoi le haut niveau. Après, franchement, le talent, tu sais pas, n'importe qui, dans n'importe quelle école, il peut commencer à faire de l'escrime, tu vas te rendre compte qu'il est talentueux, il va aller au Krebs, après à l'INSEP, ainsi de suite, d'une petite ville ou d'une grande ville. Et je pense que nous, en tant que maître d'armes, en tant qu'association, nous devons essayer de toucher le maximum de population et aller chercher les talents. Bien sûr, leur fournir un bon entraînement et essayer plus de personnes découvrent les sports individuels, tant que l'escrime ou peut-être le foot. Plus de personnes détectent ce sport, plus tu as de la chance de tomber sur des talentueux, sur des talents qui peuvent aller très loin ou porter le drapeau français. Alors, après, c'est mon avis, eux, ils ont posé une stratégie, ça reste une stratégie. Est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle marche pas? Après, honnêtement, j'ai pas suivi, je sais pas si c'est quoi les termes, c'est quoi la stratégie exactement. J'ai pas vraiment suivi comment ça va se passer.
Alors, c'est une stratégie qui s'appelle faut faire des économies, mais il faut gagner.
Faire mieux avec moi.
Ouais, c'est ça.
Alors, Ayoub, en plus d'être maître d'armes au club de Trappes, vous êtes aussi arbitre international.
Exactement.
Expliquez-nous comment vous êtes devenu arbitre et comment vous vous préparez à l'approche de matchs importants. Parce que je vous avouerai que moi, j'ai encore en tête quelques combats d'escrime au JO de 2016. Ou clairement, enfin,
avec des controverses,
voilà, avec les commentateurs aussi qui commentaient la partie. Enfin, il y a parfois de l'incompréhension sur certaines décisions arbitrales qui sont prises et qui ont causé notamment préjudice. Je me souviens dans la catégorie de l'épée, Manon Brunet qui jouait pour la troisième place
au sabre.
Manon Brunet, française, qui jouait la finale pour la troisième place et qui, suite à des décisions arbitrales controversées, a perdu son match à la fin, sûrement déstabilisé psychologiquement.
D'accord. Donc tout ça, ça prouve que même en escrime, c'est des humains qui arbitrent. Même au foot, parce qu'il y a toujours plein d'équipes qui sont scandalisées à cause d'une erreur d'arbitrage. Peut-être. Parce que nous, en tant que spectateurs, pour nous, c'est toujours une erreur quand c'est pas notre équipe qui gagne. Après, honnêtement, j'ai pas vu l'action ou ce match dont vous parlez. Mais il faut savoir qu'il y a de la pression. Comme s'il y a de la pression sur les maîtres d'armes ou les entraîneurs pour amener des résultats, il y a de la pression sur les arbitres pour qu'ils fournissent un bon résultat, un bon arbitrage équitable. Parce que notre sport, il y a plein d'actions. Tu peux pas, c'est sûr, il y a toujours des petites erreurs. Après, il y a des erreurs qui changent le match. Bien sûr, à 14 partout, à une touche. Mais les arbitres, normalement, ils auraient dû, comme les tireurs, travailler pendant 4 ans lors des Coupes du Monde pour essayer de détecter, je pense, la Fédération Internationale essaie de détecter les meilleurs arbitres pour envoyer au jeu. Après, on n'est jamais de l'abri d'une erreur.
Vous avez une aide technique ou pas pour l'arbitrage?
Il y a l'arbitrage vidéo, oui.
Vidéo, d'accord. Ouais. Okay.
C'est là, normalement, si je ne me trompe pas, c'est le premier sport qui a commencé par l'arbitrage
d'accord.
vidéo.
D'accord.
Lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, c'était l'innovation d'escrime, même le Comité Olympique International donnait l'escrime comme exemple pour les autres sports, un sport qui a réussi à se développer.
C'est les sports américains qui ont eu les premiers recours à la vidéo.
Sport olympique.
Ah, ok. Olympique, ouais.
Donc après, ouais,
pas de football américain encore aux Jeux Olympiques.
Ou au basket.
NBA, peut-être. Ouais. Donc, pour en revenant à moi, moi j'ai pas arbitré lors des Jeux 2016, là, donc, et en plus, c'est pas ma spécialité, j'arbitre le fleuret.
Ouais.
J'ai arbitré lors des Jeux Olympiques à Londres. J'ai commencé l'arbitrage trop tôt parce qu'il y avait un manque de moyens pour suivre le haut niveau. Du coup, j'ai commencé à arbitrer un peu de Coupe du Monde. J'ai été détecté, je commençais à arbitrer quelques finales. J'étais arbitre aux Jeux Olympiques de Londres. J'ai arbitré la finale des Jeux Olympiques de ma spécialité à Londres. En 2014 aussi, j'étais encore arbitre. Je commençais à travailler à l'escrime club de Trappe. D'un coup, j'ai repris du plaisir, j'ai retiré un peu, ça m'a motivé. Je me suis décidé de reprendre le niveau que j'ai arrêté depuis 6-7 ans. J'ai réussi à monter dans le classement international jusqu'à atteindre la 24e place. J'étais 24e mondial. Grâce à ça, j'ai pu être meilleur classé dans la zone Afrique. À part, il y avait un Égyptien aussi qui était vice-champion olympique à Londres. Du coup, ça m'a aidé à me qualifier aux Jeux Olympiques. Donc je sacrifiais cette année, après avec des moyens limités bien sûr, pour faire mon maximum, pour donner une bonne prestation. J'ai réussi à terminer cette saison en étant bien classé. Donc j'ai réussi à être aux Jeux Olympiques de Rio. Et ça m'a fait...
Avec la Tunisie, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement, avec la Tunisie. Donc je n'étais pas à l'INSEP, je ne m'entraînais pas avec les Français. Je m'entraînais au club, à Trappe. J'essayais de chercher un peu sparring partner dans d'autres clubs, à droite, à gauche. Parce que vous savez, dans un seul club, tu ne peux pas avoir une grande structure de 5 grosses séances d'entraînement par semaine. Donc il faut toujours, quand tu touches le niveau, essayer de tourner un peu. Donc voilà.
L'escrime, c'est quand même plutôt un sport des pays du Nord et un petit peu d'Asie, je crois. Ou alors il y a des escrimeurs partout?
Non, il y a des escrimeurs partout. Historiquement aussi, la France, elle a gagné plein de médailles. L'Italie, maintenant l'Asie monte en force. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'investissement, ils essaient de ramener les meilleurs. Les Chinois, ils gagnent bien des médailles lors des Jeux Olympiques. Les Russes aussi, ils investissent, ça devient un sport professionnel. Donc,
L'Ukraine, l'Italie...
L'Ukraine, Italie, ouais. Grosse nation. Ouais. Ukraine, une nation qui cible. Donc, tu as une équipe dans une épreuve, 2-3 tireurs à fond. Mais tu sais, ils les ciblent, donc ils sont vraiment très forts.
Mais est-ce qu'il y a des épreuves qui sont justement des spécialités nationales ou régionales?
Ça veut dire par rapport au pays, ouais. Il y a toujours, et on sait que les Italiens, ils sont forts au fleuret. Ils sont très très forts au fleuret. Historiquement, ils ont une athlète très très forte qui a réussi à faire je ne sais pas combien de médailles olympiques, on n'en compte plus, depuis qu'elle a 18 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, quand même. Mmh. Et à cause de manque de médailles, à 40 ans, elle était classée 7e mondiale, elle n'a pas réussi à faire les Jeux Olympiques.
Ah ouais, donc c'est,
parce qu'il n'y avait pas les 6 épreuves, donc l'équipe n'était pas qualifiée, il y avait déjà 2 Italiennes devant elle, donc voilà, je pense que ça va pas se reproduire au futur. Ça.
Et vous, qu'est-ce que vous a emmené au fleuret alors justement en Tunisie? Vous étiez en Tunisie, c'est ça, quand
oui,
vous avez commencé?
Ouais.
Comment vous avez découvert ce sport?
Franchement, moi je me rappelle, le maître d'armes, Il nous a fait découvrir un peu les déplacements, les trois armes. J'ai accroché au fleuret, j'ai aimé. C'était plus une arme de précision par rapport au... Le sabre, l'épée, c'est une arme de précision partout, bien sûr, mais on a le droit de toucher tout le corps, il n'y a pas de convention. Depuis tout petit, j'ai accroché au fleuret, et tu sais, après, ça devient comme... Le sport, c'est comme de la drogue. Il suffit que tu t'accroches, tu ne peux plus lâcher. Mon père, il faisait de l'escrime, il faisait du sabre.
Ah oui, d'accord. Donc vous avez un père quand même qui faisait... Ouais. Ouais, d'accord.
Il faisait du sabre. Moi, j'ai fait du fleuret. Le maître d'armes était bon. Peut-être qu'on a fait choisir. Il m'a poussé vers lui parce qu'il y avait un bon maître d'armes au fleuret. Et du coup, j'ai accroché. Et voilà.
C'est comme ça.
Elliot,
est-ce que ce n'est pas un sport qui, tend à qui va tendre à disparaître des Jeux Olympiques parce qu'il y a pas tant de pas de pratiquants que ça, il y a plein de sports qui émergent, plein de nouveaux sports qui émergent. Est-ce que c'est pas en fait, un risque pour l'escrime?
En tout cas, je sais pas, il y a pas tant de pratiquants que ça, il y a quand même 55 000 à peu près en France de pratiquants. Non, parce que historiquement, c'est l'un des bases des Jeux Olympiques, l'escrime, c'est l'un des quatre sports avec lesquels les Jeux Olympiques ont commencé. Et il fait des évolutions sans arrêt lors des Jeux. Comme on a parlé tout à l'heure de la vidéo, de l'arbitrage, il est bien médiatisé lors des Jeux Olympiques. Peut-être maintenant que la Fédération Internationale va faire un peu plus pour le rendre plus spectaculaire lors des Championnats du Monde ou lors des Grands Prix. Les masques à visière, non ?
Oui, oui, c'est un problème. Dans une société de l'image, le fait qu'on ne voit pas le visage
après,
des escrimeurs, ça peut poser un problème
peut-être
pour la médiatisation.
Peut-être entre les touches. Et ils ont essayé d'innover dans ce sens aussi, parce qu'il y a eu des masques transparents pour montrer les grimaces. Mais par contre, ça a fonctionné pendant une année. Et ils ont mis ça en stand-by afin de développer. Parce que vous savez, ce genre de matériel, le matériel d'escrime, il coûte vraiment cher. Heureusement que nous, ici, les associations ou comme les Escrime Club de Trappes, il essaie d'acheter, lui, le matériel, puis de prêter aux adhérents, faire un truc de prêt ou de location vraiment minime pour que les gens puissent y faire l'escrime.
Alors, donc faire l'escrime à trappe, oui, mais au fleuret simplement, c'est ça?
Oui,
vous faites que
exactement.
Du fleuret à trappe.
Oui,
alors, pourquoi ce choix c'est un choix guidé par une spécialisation voulue à la base, du fait de ne pas pouvoir, faute de moyens humains ou financiers, comment dire, enseigner les trois armes?
Sûrement, ça a une liaison avec ça. Moi, quand j'étais venu à Trappes, c'était déjà... Ils cherchaient un maître d'armes de fleuret. Donc, spécialité. Moi, on est maître d'armes, on peut faire les trois armes, bien sûr. Je faisais de le niveau au fleuret, j'étais connu au fleuret. Donc, ils cherchaient un maître d'armes de fleuret. J'ai commencé. Mais suppose aussi, quand t'es maître d'armes qui est dans un petit club, ou bah, après, Trappes, normalement, c'est un grand club, puisqu'on est en National 1. On a réussi à monter en National 1. On a mettre trois équipes. On est N1, on est N2, on est N3. Ce qui est très, très, très bien, croyez-moi, par rapport au niveau financier, par rapport à plein de choses. Mais j'imagine pas que moi, si j'avais trois équipes différentes, donc trois spécialités différentes, que je puisse suivre tous les gamins le même dimanche. Il y a une compète d'épée à droite, une compète de sabre à droite, une compète de fleuret là.
Oui, parce qu'elles ne se déroulent pas toutes au même moment, ces épreuves.
Si, le même dimanche, tu peux trouver de l'épée à droite, du fleuret à gauche. Nous, on est un club qui, depuis le temps, ils se sont spécialisés au fleuret. Quand tu as un petit groupe, on n'a pas grand nombre d'heures... d'intervention. Donc quand tu as un petit groupe, tu essaies de faire... tu ne peux pas faire la moitié d'heure de l'épée pour ceux, du fleuret pour les autres. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un club spécialité fleuret. Peut-être le premier maître d'armes était fleurettiste aussi. Donc voilà.
Une chance de médaille ou pas? Là, si on se projette vers 2024, une chance de médaille pour un jeune ou une jeune trappiste, quand on sait que Isao Ratibus, qui s'entraînait à Trappe il y a quelques temps au fleuret, qui en ce moment a de bons résultats sur la scène internationale.
Ouais, elle a de bons résultats, c'est une athlète très 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 forte. Je pense que c'était Impo Djanga qui était à Trappes, c'est une autre, elle est cinquième maintenant, elle joue sa place pour rentrer dans l'équipe.
Ah, elle n'avait pas des liens avec Trappes, Isao Ratibus?
Non, je ne me rappelle pas.
Avec Julien Camus à l'époque. Bon, on lui posera la question.
Est-ce que c'est pas quelqu'un qui suivait justement, mais hors de Trappes, Julien Camus
Ouais, c'est ça, il devait la suivre.
peut-être, mais pas forcément à Trappes. En tant que depuis là, depuis 4 ans, et elle n'a pas de liaison en tout cas avec le club de Trappes.
À vérifier pour nous.
Je me rappelle Impat Djanga qui a réussi à rentrer dans l'équipe, dans les 4. Elle était trappiste, après elle est sortie, elle est 5 maintenant. Et vous savez, à haut niveau, ils sont 12 qui se battent pour 4 places pour être dans l'équipe. Donc c'est dur, il faut tu vas toujours rentrer, sortir jusqu'à ce que tu sois stable.
Est-ce qu'ils en vivent de cette pratique justement ou pas?
Après, ceux qui sont à l'INSEP, je suppose qu'il y a des structures, qu'il y a des arrangements avec leur travail. Peut-être qu'ils sont professeurs de sport. Je sais, on sait, dans les autres pays, je sais, par exemple, dans l'Italie, ils sont tous ou dans polizia ou dans l'armée. Donc, ils ont un salaire en plus pour être athlète de niveau, plus leur salaire. Donc, ici, en France, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, le haut niveau.
Il y a des futures grandes échéances là pour le club de Trappes d'ici la fin de la saison.
Oui, il y a les demi-finales du championnat de France. On a un tireur, Alexis Dejos, qui est qualifié en demi-finale des championnats de France. C'est le 31 mars. On croise les doigts, on compte qu'il va être en finale des France. Je suis plutôt optimiste, vu qu'il est dans les 4 ou 5 premiers de toute la Ligue. Il a réussi à gagner une compète de Ligue. Et la plus grosse échéance aussi, c'est au mois de mai, c'est les championnats de France seniors. On a notre tireur Benoît Journet de Trappes qui a quand même réussi à être médaillé de bronze de France l'année dernière. Troisième place en National 1, avec toute l'équipe de France, avec l'équipe qui a gagné la médaille d'argent au JO qui était présent. Donc ça, c'était historique et une très très grosse performance. Donc l'individuel, on a Benoît Journet, Jean-Brice Charrière qui sont en National 1. Après, on a l'équipe où on va essayer. On a fait un grand travail l'année dernière pour réussir à monter en National 1, qui était vraiment un exploit. Et là, on va essayer de faire notre maximum pour essayer de garder notre place, pour essayer de rester en première division.
Bien, merci Ayoub Ferjani, ce sont les mots de la fin. Enfin, juste, si une auditrice, un auditeur veut pratiquer de l'escrime à Trappes, on peut vous retrouver où ?
Sur notre site ou notre page Facebook, ouais. Escrime Club de Trappes, ou vous mettez sur Google Escrime Club de Trappes, vous allez tomber sur notre site www.escrimetrappes.fr.
Voilà Nouradine, pour toi qui a toujours rêvé de faire de l'escrime depuis que tu as vu le Cyrano de Bergerac.
Non, les trois mousquetaires. Ouais, okay. J'aurais bien testé. Ouais.
Merci Ayoub Ferjani, maître d'armes au sein de l'Escrime Club de Trappes.
Merci à vous, vous avez une très très bonne ambiance entre vous. Ouais. Donc c'est un plaisir de revenir. Avec plaisir.
Merci Elliot, Quentin, merci d'être venu. Nouradine, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Julien en régie. Merci. C'était Parlons Sport. On se retrouve lundi prochain à 17h, 18h. Bonne soirée, bonne semaine à tous.
Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.